Ravi de vous retrouver ce lundi 15 juillet 2019, il est 18h, le journal en français avec Rukayat Abdrahman. Au sommaire de cette édition, face au banditisme dans la capitale, des opérations de ratissage sont en cours dans les quartiers les plus touchés, a déclaré ce matin le gouverneur de la région de Niamey. 60 médecins et infirmiers du Niger bénéficient à Niamey d'une formation pour une meilleure prise en charge des patients diabétiques. En fin d'édition, comme chaque lundi, un entretien avec la magistrate Togoje Maimouna Gazibo sur l'enrichissement illicite, une infraction à caractère économique punie par la loi au Niger. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ces derniers jours, plusieurs agressions, vols et enlèvements ont été constatés dans différents quartiers de Niamey. Selon le gouverneur de Niamey, le Conseil régional de sécurité, qui englobe toutes les forces de défense et de sécurité, a établi la liste des zones les plus touchées et des opérations de ratissage sont en cours. Hassan Issaka Karanta, au micro de Diallo Maria Makenda.
Le Conseil régional de sécurité a déjà établi toutes les zones criminogènes de la ville, c'est-à-dire partout où le banditisme sévit. Et des opérations coup de poing sont en train d'être menées de jour comme de nuit. Des gens sont interpellés. Ceux auxquels on ne reproche rien sont libérés. Les gens sur lesquels pèsent des soupçons sont directement orientés vers le procureur de la République. Déjà, un certain nombre de malfrats sont sous une coupe réglée, d'autres sont en cabale. Toujours est-il que l'enquête suit son cours. Je ne ferai allusion à aucun cas spécifique pour permettre à l'enquête d'avancer normalement. Le moment venu, une large communication sera faite à l'endroit de la population. Mais pour l'instant, des opérations sont en train d'être menées pour ratisser tous les quartiers. Et c'est pour cela que je demande aux gens d'être sereins, mais seulement que les gens évitent certaines zones à certaines heures. Je voudrais pour exemple la ceinture verte.
Renforcer la présence de la direction de la surveillance du territoire DST du Niger à Assamaka, poste frontalier du Niger avec l'Algérie, était au cœur d'une rencontre jeudi à Agadez entre responsables de l'Organisation internationale pour la migration OIM et les autorités régionales d'Agadez. Au micro de Moussa Maman, le coordonnateur terrain de l'OIM Agadez, Mohamed Nour Ahmad, parle de ce projet sécuritaire.
Un bâtiment sera construit et équipé avec des équipements d'identification des personnes numérisées qui aideront certainement à mieux gérer la migration, mais aussi le mouvement de personnes et de biens, et encore mieux gérer le mouvement transfrontalier de la population locale au niveau d'Assamaka qui est à proximité avec l'Algérie. Et nous recevons à peu près 1000 migrants chaque mois qui franchissent la frontière avec l'Algérie pour gagner le village d'Assamaka où l'OIM est positionné pour assister ces migrants. Donc nous avons jugé utile de doter aussi les autorités et les forces de l'ordre qui sont sur place avec ces bâtiments et ces équipements pour pouvoir mieux gérer le flux migratoire à ces niveaux.
Bien outiller les professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des patients diabétiques, c'est l'objectif d'une formation en cours à Niamey, assurée par l'ONG Forum Santé Niger Forsani. Elle est destinée à 60 médecins et infirmiers venus des 8 régions du Niger. Dr Mahamman Sani Aminou, coordonnateur de Forsani au micro de Asmana China.
La plupart sont des médecins généralistes et des infirmiers diplômés d'État. L'ONG Forsani, qui gère ce projet diabète, a voulu renforcer la capacité de prise en charge de ces médecins dans leur pratique quotidienne. Que ces 60 médecins et infirmiers soient à mesure de prendre en charge convenablement dans leur centre de santé les patients diabétiques, de dispenser des séances d'éducation thérapeutique et de sensibiliser les diabétiques par rapport à leur maladie.
Quelle est l'ampleur de cette maladie, le diabète au Niger?
Le diabète, c'est une pandémie mondiale. Au Niger, la dernière enquête, c'est celle de 2007, disait que dans la population des adultes, il y a 4,3% qui ont le diabète. Parmi eux, 70% ne connaissent pas qu'ils ont le diabète. Et c'est lors d'une complication qu'ils vont atterrir dans les hôpitaux pour le diabète.
Le cadre de concertation de la société civile de Tillabéri s'est exprimé samedi sur les impacts de l'état d'urgence dans la région, mais aussi sur les infrastructures à ériger à l'occasion de la fête de la République que Tillabéri va accueillir en décembre prochain. Des précisions avec Mariama Koulibaly au micro d'Aziz Hassoumi.
La population de Tillabéri, regroupée au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, rejette les mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2019, dénonce la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité et la pensée unique qui gangrènent la vie quotidienne de l'État. Fustige et condamne les attaques répétitives et meurtrières contre les positions de nos forces de défense et de sécurité dans la région, dont la dernière en date est celle du camp militaire d'Inates le dimanche 30 juin 2019. Exige la levée des mesures de l'état d'urgence qui produisent plus d'effets négatifs que positifs. Invite les populations à contribuer efficacement à la sécurisation de notre terroir à travers une franche collaboration avec les autorités en charge des questions sécuritaires.
L'acteur de la société civile nigérienne, Maître Lirwana Abdrahaman, c'est un rappel, est sorti de la prison civile de Daïkaina, région de Tillabéri, samedi après avoir purgé 12 mois pour outrage aux doyens des juges. Quelques minutes après sa libération, il est allé à Tillabéri pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu pendant sa détention. Il est au micro d'Abdoulaye Mamoudou.
Ceux qui ont souffert suite à notre détention, c'est d'abord ceux qui sont à Tillabéri, qui prennent soin de nous nuit et jour, qui font des va-et-vient pour s'occuper de nous. Donc, raison pour laquelle, en sortant, j'ai saisi cette occasion de venir la première fois à Tillabéri pour dire au revoir aux gens et puis les remercier. Je vous remercie.
Toujours à Tillabéri, le président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2019, Hamadou Souley Adamou, était samedi dans la région pour superviser les chantiers en cours dans la ville. Au micro d'Abdoulaye Mamoudou, il s'est dit entièrement satisfait du début des travaux.
Nous avons vu que la SATOM est sur le terrain et ses travaux avancent normalement. Nous sommes revenus ici sur le site de la tribune officielle qui va accueillir le défilé militaire. Nous avons constaté également ici que les travaux de terrassement ont démarré. Nous sommes satisfaits de notre déplacement de ce matin. Nous avons compris que les entrepreneurs, ils ont pris conscience des enjeux de ces travaux et qu'ils ont bien entendu commencé effectivement leur chantier. Il y en a qui n'ont pas totalement débuté, mais qui ont déjà préparé donc leur base vie. Et nous estimons que dans les jours à venir sur ces chantiers, les travaux vont effectivement démarrer. Nous pouvons dire globalement que Tillabéri Tchandalo commence à prendre forme. Nous pouvons espérer avoir nos ouvrages réceptionnés dans les délais, Inch'Allah.
Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé samedi à Agadez une rencontre d'échange avec les médias, les organisations de la société civile et les élus locaux sur les exonérations fiscales, la transparence, la justice fiscale, la gouvernance et les finances publiques. L'objectif de la rencontre est de discuter avec tous ces acteurs des défis sur ces différentes thématiques, explique Narua Tassou, chargée de projet au ROTAB.
L'objectif de cette rencontre est de pouvoir discuter avec les acteurs locaux qui sont les médias, les élus locaux, l'administration publique, parler des défis qui mènent la gouvernance, la justice fiscale et les finances, les exonérations aussi. Je constate que tous les intervenants ont lancé un cri de cœur par rapport à tous ces problèmes et certains ont même fait des recommandations par rapport à ça, surtout sur la justice fiscale. Une conseillère qui a fait une recommandation demande à tout le monde d'appliquer le budget participatif pour pallier au problème de la justice fiscale. Tout simplement, nos attentes sont qu'il faut que chacun se mobilise pour qu'on ait un résultat positif par rapport à toutes ces questions qui touchent le bas peuple.
Propos recueillis par Moussa Maman. 150 jeunes d'Afrique subsaharienne, dont ceux du Niger, se sont réunis à Niamey du 7 au 8 juillet lors du sommet de l'Union africaine autour de la thématique « Reverdir le Sahel, la jeunesse africaine s'engage à lutter contre les effets négatifs du changement climatique ». À la fin de ce symposium organisé par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora ARDN, ces 150 jeunes se sont engagés à lutter contre les effets néfastes du changement climatique au Sahel. Sahel et en Afrique. L'exposition dénommée « Une semaine pour l'Afrique 100% made in Niger » qui s'est tenue du 1er au 7 juillet à Niamey dans le cadre du sommet de l'Union africaine a engrangé selon la promotrice 608 millions de ventes sur le terrain. Madame Rabi Arzika, interrogée ce matin par le studio Kalangu.
Selon nos estimations, en tout cas, ce n'est pas toujours d'avoir les vrais chiffres auprès des exposants. Et nous, on a vu 608 millions de ventes sur le terrain, surtout au niveau du Kilishi. Tout ce qu'ils ont amené comme stock de Kilishi a été acheté. Et au niveau du fromage, au niveau des produits des femmes qui sont venues des régions, l'huile d'arachide, en tout cas, tous ces produits-là ont connu du succès. Et maintenant, ceux qui sont venus de l'Afrique proprement dit, en tout cas, qui sont habitués en tout cas, au terrain nigérien, ils aussi ont vendu. Mais on n'a pas la totalité de leurs chiffres. On n'a pas une estimation parce qu'on n'a pas eu accès. Mais ce que je vous dis, c'est sur les stands nigériens dont on connaît soit les projets qu'ils ont envoyés, les produits à l'exposition, ou on connaît les exposants eux-mêmes.
Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.
Et puis la partie magazine de cette édition, l'enrichissement illicite est une infraction à caractère économique qui est punie par la loi au Niger. Tout fonctionnaire de l'État qui n'a pas hérité d'une richesse ou contracté un prêt auprès d'une banque et ou bénéficié d'un legs ou d'un don et qui vit au-dessus de ses moyens sans qu'il ne puisse justifier cela lorsqu'il est reconnu coupable et que les preuves sont là, eh bien ce fonctionnaire peut être condamné de 3 mois à 10 ans d'emprisonnement. Les explications de la magistrate Goje Maimouna Gazibo dans l'entretien habituel du lundi accordé à Balkissa Hamidou.
L'infraction enrichissement illicite est punie par les articles 130 à 134 du Code pénal nigérien. Tout agent de l'État, auteur d'enrichissement illicite, risque une peine d'emprisonnement de 3 mois à 10 ans et ses biens peuvent être saisis par voie d'huissier de justice. Puis, vendus et reversés au trésor public, selon la magistrate Goje Maimouna Gazibo.
L'enrichissement illicite au Niger est prévu par la loi numéro 2017-10 du 30 mars 2017. Vous retrouvez cette infraction dans le code pénal également, article 130 à 134. Le délit d'enrichissement illicite est constitué dès qu'une personne possède un patrimoine et ou mène un train de vie qu'elle ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus. Vous êtes magistrat, votre salaire fait 500 000. Vous n'avez pas hérité d'un parent. Vous n'êtes pas autorisé à faire du commerce tant que fonctionnaire magistrat. Mais vous avez un train de vie qui varie de 2 millions à 3 millions sans que vous ne puissiez le justifier. C'est vrai. Il y a des fonctionnaires qui peuvent avoir un salaire de 300 000, mais qui viennent d'une famille extrêmement riche. Là, si la personne a 300 000 et a un train de vie supérieur à 2 millions, cela peut se justifier. Mais toi, un fonctionnaire simple, tu n'as rien hérité de tes parents. Tu as un train de vie extraordinaire. Tu ne peux pas faire la preuve que c'est quelqu'un qui te l'a donné. Tu ne peux pas prouver que c'est un héritage, mais tu as 500 000 et tu vis à 3 millions le mois. Tu ne peux pas dire que voilà, c'est auprès d'une banque que j'ai pris 30 millions et c'est ce qui justifie mon train de vie.
Comment faire le constat en cas d'enrichissement illicite?
Vous êtes dans une ville, tout le monde vous voit. On sait que vous êtes un simple policier. Vous êtes dans un château, vous roulez dans des V8. En étant agent de l'État, ça doit interpeller vos patrons, le procureur. Surtout si tout le monde connaît votre histoire. Vous ne venez pas d'une famille riche, vous n'avez pas gagné au loto, vous n'avez pas pris un prêt bancaire qui puisse justifier ce train de vie. Et la loi dit que lorsque vous êtes reconnu coupable, parce que les preuves sont là, vous pouvez être condamné de 3 mois à 10 ans d'emprisonnement. Ensuite, vous pouvez être condamné à restituer à votre service la totalité du montant que vous avez détourné ou le montant multiplié par 2.
Quelle est la procédure à suivre pour saisir les biens d'un auteur d'enrichissement illicite?
Tant que vous avez des biens et que vous êtes condamné, on peut saisir vos biens par voie d'huissier de justice. Et même si la personne cache ses biens, si le parquet découvre où sont les ces biens-là vont être rapatriés, saisis, vendus et reversés au trésor public.
C'est la fin de ce journal, mais restez toujours à notre écoute. Dans un instant, le forum du studio Kalangu sur la drépanocytose, causes, conséquences et traitements avec Nafissa Adamou Sirfo. Bonne
écoute. Studio Kalangu
à Gaya
sur la radio Faraa
90.3 MHz. À Tessawa
sur la radio Termamoa
97.5 MHz. À Birinkoni
sur la radio Nia
97.5 MHz. À Belleyara
sur la radio Dalol
96 MHz.
Studio Kalangu.